France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir Emmanuel Macron en première ligne à la veille de ce que l'on appelle l'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes. Cela fait un mois que la crise a démarré sans trouver de réelle issue. Nous y consacrerons une grande partie de cette édition désinformée. Le chef de l'État s'est exprimé une première fois à Bruxelles pour lancer un appel au calme et au retour à l'ordre avant de se rendre à Strasbourg en début de soirée. Pourtant, malgré les annonces du gouvernement que nous détaillerons en partie, les Gilets jaunes ne désarment pas, ils appellent, à quelques exceptions près, à une nouvelle mobilisation, vous le savez, demain. Les forces de l'ordre, une fois de plus, seront particulièrement sollicitées et pour cause, applaudies le jeudi et prises pour cible le samedi, un paradoxe français. Nous évoquerons en fin d'émission la personnalité d'Edmond Siméoni, le leader autonomiste corse qui s'est éteint aujourd'hui à Ajaccio. À l'âge de 84 ans, on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Hamdam Mostafavi.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, rédactrice en chef à Courrier International. À mes côtés, Serge Portelli, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue, vous êtes magistrat honoraire. Également invité, Étienne Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Marianne. Et à mes côtés également, Alexis Poulain, bonsoir Alexis. Journaliste, directeur de publication du site Le Monde Moderne. Nous sommes ensemble à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT jusqu'à 21h. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas tout à fait. Emmanuel Macron est sur le terrain à la veille du cinquième samedi de mobilisation des Gilets jaunes qui ont maintenu, vous le verrez, leur appel à manifester en dépit des événements dramatiques survenus à Strasbourg. Le chef de l'État est allé se recueillir place Kléber en hommage aux victimes de l'attaque du marché de Noël. Mardi soir, il a rendu hommage aux forces de l'ordre. Il les a saluées, elles qui ont neutralisé le terroriste Chérif Chekat. Hier soir, il est allé rencontrer les familles des victimes. Je vous rappelle le nouveau bilan provisoire qui s'élève ainsi à 4 morts, une victime en état de mort cérébrale et 11 blessés selon le parquet de Paris. Emmanuel Macron qui a donné auparavant une conférence de presse, c'était à Bruxelles, en milieu d'après-midi, en clôture du sommet européen, il a lancé un appel au calme.
Mais je ne crois pas que notre démocratie puisse accepter de fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par des éléments de violence, parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés. On le voit samedi après samedi, puisque des casseurs profitent de ces manifestations. Et donc, en effet, je pense que la raison, le sens de l'intérêt général, conduirait chacune et chacun maintenant à s'inscrire dans un débat national et des échanges avec leur maire, à la forme, en quelque sorte, la capacité à formuler des propositions politiques et à s'inscrire dans le processus démocratique, plutôt qu'à considérer que les revendications ont vocation à changer et à durer dans la rue. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal.
Voilà, je vais vous faire réagir dans un instant à tous les quatre sur cet appel au calme et au retour à l'ordre du chef de l'État. Mais tout d'abord, un détour par Strasbourg. Bonsoir Benjamin Ely.
Bonsoir.
Notre envoyé spécial, vous êtes aux côtés d'Emmanuel Macron qui a déambulé au marché de Noël de Strasbourg.
Et on est en plein dedans, je suis plutôt dans la cohue autour d'Emmanuel Macron. Beaucoup de journalistes, mais surtout énormément de Strasbourgeois dans ce marché de Noël de Broglie. Une ambiance vraiment chaleureuse, un accueil très chaleureux de la part des Strasbourgeois vis-à-vis du président de la République. Beaucoup demandent des selfies. Beaucoup le remercient d'être venus les encourager. Voilà ce qu'a dit une commerçante, une vendeuse de Brodeleux, ces petits biscuits typiques alsaciens, qui remercie le président d'avoir fait la démarche de venir aujourd'hui à Strasbourg. Il déambule en ce moment dans le marché, quoi. Il déambule, il progresse à petits pas, parce qu'encore une fois, il y a une foule impressionnante autour de nous. Le président de la République, entouré des élus locaux, qui a aussi discuté avec d'autres administrés, qui encore une fois, disent au président, vous avez bien fait de venir, nous avions besoin de votre présence. Une dame a dit, c'est dur ce qui nous est arrivé. Et le président de la République a eu un geste de réconfort envers elle. Il a pris dans ses bras Voilà plusieurs gestes de réconfort de ce genre de la part du président de la République. Et puis avant cette séquence au cœur du marché de Noël qui a ouvert depuis ce matin, le président de la République a évidemment salué les forces de l'ordre sur la place Kléber, là où il y a le mémorial, le président de la République qui a déposé une rose blanche juste au pied de ce mémorial. Et la déambulation continue actuellement. Le président de la République n'a pas fini de visiter le marché de Noël. Nous progressons tout doucement vers l'issue de ce marché de Noël. Ensuite, le président de la République devrait rencontrer, loin des micros, loin des caméras, loin de la cohue, les familles des victimes à la suite psychologique installée en dehors du centre-ville.
Voilà, merci à vous Benjamin Elie, merci pour toutes ces précisions, ce récit donc de la déambulation du chef de l'État dans ce marché de Noël qui a été, vous le savez, mardi soir le théâtre d'un attentat terroriste. Serge Portelli, un hommage nécessaire et qui est le bienvenu, celui du président de la République.
Tous les présidents de la République, depuis hélas que nous sommes confrontés à des attentats, se rendent sur les lieux des drames. Donc il fallait impérativement que Emmanuel Macron y aille. Mais c'est une époque très très différente des autres, parce que il y a ce télescopage avec le mouvement des Gilets jaunes qui... j'allais presque dire dénature un petit peu tout ce qu'on peut penser sur cet attentat, avec en plus ce fantasme complètement délirant d'un président de la République qui aurait manipulé tout le monde.
Complotisme,
complotisme.
On va en dire deux mots dans un instant, oui.
Donc c'est une très très bonne chose. Malheureusement, on a vu aussi que, comme d'habitude d'ailleurs, la solidarité nationale joue moins de 24 heures. Ouais. Immédiatement repartent toutes les revendications qu'on connaît par cœur d'ailleurs et qui ressortent. Enfin, si vous appelez ça un marronnier, mais enfin, ça revient un petit peu à ça, quoi. Ouais, à chaque attentat, les mêmes rengaines, les mêmes revendications, les mêmes bêtises, j'allais dire. Donc,
on n'en sort pas.
On n'en sort pas.
Je vais poursuivre ce tour de table dans un instant. Vous allez réagir tous les trois, évidemment. Mais tout d'abord, il est 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Les Gilets jaunes appelés à descendre dans la rue demain un peu partout en France pour l'acte 5 de leur mobilisation. Depuis Bruxelles, où ils participaient à un Conseil européen, le président de la République a estimé que la France a besoin de calme, d'ordre et de retrouver un fonctionnement normal. Le chef de l'État a jugé que le dialogue ne se fait pas par l'occupation du domaine public et par des violences. Dans cette crise des Gilets jaunes, trois membres du mouvement sont condamnés aujourd'hui par le tribunal correctionnel du Mans à 3 mois de prison ferme. Ils avaient été interpellés mercredi lors du déblocage du dépôt pétrolier de la ville à Poitiers. Un gilet jaune sera lui jugé lundi en comparution immédiate. Il a été arrêté hier soir après avoir agressé 3 policiers à l'aide d'une barre à mine. Emmanuel Macron est ce soir à Strasbourg pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de mardi soir. Il a rencontré les familles de victimes, les forces de l'ordre mobilisées dans la traque de l'assaillant. Le chef de l'État déambule en ce moment dans les allées du marché de Noël, rouvert depuis ce matin 11h. France et Allemagne l'ont annoncé en fin d'après-midi. Les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour réformer la zone euro et créer un budget commun pour l'UE. Reste maintenant à s'entendre en juin prochain sur les caractéristiques principales de ce budget.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Hamdan Mostafavi, Serge Portelli l'évoquait à l'instant, difficile de prendre la mesure de cet hommage ce soir, des événements qui se sont produits parce qu'il y a effectivement ce télescopage avec cette suite de la crise des Gilets jaunes.
Oui, c'est vrai que là, on se retrouve dans une atmosphère assez différente de celle qu'on a connue lors des précédents attentats, puisque on dirait que le temps du recueillement, le temps de la communion et de l'union nationale n'existe pas, et quelque part, il y a aussi une sorte de c'est terrible à dire, mais de banalisation, de l'impression que bon, un attentat se produit et puis on recommence le lendemain comme si tout était normal, et on est un peu dans le règne du double anormal, c'est-à-dire...
Le double anormal, vous dites, oui, voilà. C'est un concept intéressant.
Non, parce que c'est pas totalement étonnant que le chef de l'État, évidemment, ait envie de retrouver l'ordre et la normalité, parce que là, à la fois, c'est anormal les formes de manifestation des Gilets jaunes, et aussi, évidemment, la présence du terrorisme, c'est deux actualités qui se catapultent de manière assez étrange.
Absolument. Étienne Girard, les appels successifs, il n'y a pas que celui d'Emmanuel Macron ce soir, finalement, sont restés lettres mortes.
Bien sûr.
Même au cœur de l'action, si je puis dire, en plein drame à Strasbourg.
Au-delà du complotisme qui peut exister chez certains groupes de gilets jaunes, c'est vrai que les gilets jaunes sur les ronds-points et qui veulent faire entendre leurs revendications, eux ne voient pas la contradiction entre le fait qu'il y a eu un attentat et le fait qu'eux veulent manifester ce samedi pour défendre leurs idées. C'est vrai que c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'on a un tel télescopage. Donc il y avait un arbitrage à avoir de la part de ces militants-là. Il a clairement été fait dans le sens de pousser plus loin les revendications, et ce qui montre que ces militants sont extrêmement motivés, et ce qui montre aussi que notre société française est très abîmée, puisque l'Union nationale n'existe absolument plus.
Oui, c'est ce que vous constatez. Alexis Poulain, je vais vous faire réagir. On va écouter ce que disent, c'est très court, hein, ces témoignages recueillis de gilets jaunes, bien sûr, à Lure et à Montpellier sur le terrain.
Nous, on va défendre notre plan rural. Hein, Paris, c'est le centre du monde, non? Ici, la France, c'est les ruraux qui font quand même marcher l'économie française, quand on regarde bien.
J'espère que des personnes entendent notre message et puissent, à son tour, les transmettre.
Non, c'est le peuple qui bouge. C'est pas ni politique, ni syndicat. C'est le peuple qui se révolte. Si on ira jusqu'au bout, nous, on peut tenir jusqu'au printemps.
Alexis Poulain, jusqu'au printemps, dit cette personne qui reste mobilisée au fond. À l'instant, Étienne Girard disait qu'au fond, que l'unité nationale était désormais mise à mal dans ce pays.
C'est pas l'unité nationale. Enfin, je pense qu'on a en France le même problème que toutes les nations européennes. On a la question, en fait, se pose de l'État-nation. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que c'est l'échelon de la démocratie? Parce que dans tous les pays développés, on a cette rupture entre les villes, les campagnes, les périphéries, ceux qui profitent de la mondialisation, ceux qui sont mobiles, et puis ceux qui sont ancrés dans des territoires et qui, si l'usine ferme, et si on ne peut plus vivre de son exploitation, sont dans le problème de ne pas finir les fins de mois. C'est ça. C'est le Brexit en Grande-Bretagne. C'est ce vote-là. C'est le vote des campagnes. Donc, c'est quelque chose qui est profond, qui n'est pas juste sur les gilets jaunes, en l'occurrence, c'est un mouvement qui fait que les nations aujourd'hui ont plus à craindre de cette déliquescence, effectivement, d'unité, et du fait qu'on ne trouve pas le dialogue. Parce que c'est bien gentil de dire qu'il faut maintenant renouer le dialogue, mais il a fallu que ces gens-là, pour se faire entendre, passent 4 semaines dans la rue, fassent des révoltes, mettent des gilets jaunes, pour qu'enfin le pouvoir daigne écouter un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? On veut reprendre la main directement en faisant ces grandes consultations locales, mais qui viennent d'en haut, encore une fois, où on va imposer les thématiques.
Comment voulez-vous que ça avance?
Il fallait peut-être, il faut de toute façon revoir ce dialogue. Vous avez au sein des Gilets jaunes beaucoup de demandes de démocratie directe, beaucoup de demandes de faire démocratie autrement, d'être entendu et pas seulement une fois tous les 5 ans en mettant un bulletin dans l'urne. C'est important qu'on prenne l'ampleur de cette révolution démocratique.
Serge Portelli, vous évoquiez à l'instant, et j'imagine que ça heurte le magistrat que vous êtes, l'effervescence de certaines fake news et surtout d'une forme de complotisme qui s'est exprimé au plus haut niveau, puisque des porte-parole eux-mêmes qu'on a vus sur de nombreux écrans ont raconté à peu près tout et n'importe quoi.
Oui, c'est assez inquiétant, mais en même temps, ça rappelle cette tendance de fake news qui va d'un président des États-Unis jusqu'au gilet jaune. Hein. On ne peut pas dire non plus que ce soit quelque chose de propre à la France et au mouvement actuel. Donc il y a vraiment une tendance lourde, très forte, où finalement, les hommes politiques donnant l'exemple, on peut raconter, mais absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, je parlais de Donald Trump, enfin bon, ça vous faisait sourire, mais je pense que vous pensez comme moi. Enfin, je veux dire, la collection des fantasmes, on peut pas le dire autrement, tweet à peu près chaque soir Donald Trump, c'est quelque chose d'hallucinant. Et le monde s'est habitué à ça. Ce qui fait que, bon, pourquoi pas les gilets jaunes? Mais là, on va quand même très loin, enfin, parce que on parlait tout à l'heure de l'attentat de Strasbourg. Bon, qu'il n'y ait pas d'unité nationale, bon, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Mais je n'ai jamais entendu, depuis qu'il y a des attentats en France, quelqu'un dire « ça n'existe pas, les victimes, c'est faux ». C'est le président de la République qui a manipulé tout ça.
Enfin, et le dire là, et être est... largement relayé aussi sur les réseaux sociaux. Hein. C'est
oui,
des
oui.
vues, des milliers, de, milliers de vues. Oui.
Donc il y a vraiment enfin, une...
Pour vous, c'est nouveau, ça. C'est vraiment un phénomène nouveau.
Ah oui, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène nouveau. et qui nous interpelle, nous qui avons des postes de responsabilité, qui sommes entre guillemets des intellectuels. Enfin, c'est toute la classe politique, et c'est même au-delà de la classe politique, c'est tous ceux qui ont en charge l'éducation, l'information. Et là, s'il y avait un vrai débat à mener, c'est d'abord, je veux dire, à ce niveau-là, parce que si vous avez en face de vous des gens qui nient tout, qui transforment tout, qui pervertissent tout, il n'y a plus de, il n'y a pas de dialogue possible. Et je pense que c'est une des clés aujourd'hui de cette absence de dialogue, parce que aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas de dialogue. Enfin, vous avez les gilets jaunes, ouais. On les voit, ils sont dans la rue, ils sont sur les ronds-points, et puis quand le président de la République parle et répond indirectement, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'a jamais dit ni gilet ni jaune.
Pas une fois.
Enfin, moi, je veux bien qu'il y ait des dialogues, mais on en est encore très loin.
Étienne Girard, relayer au fond ces fausses infos, c'est ce complotisme pour le dénoncer, c'est aussi lui donner un certain écho, c'est à double tranchant.
Oui, mais on ne peut pas laisser se colporter des fausses informations impunément. Sur les réseaux sociaux. Le constat, c'est évidemment que Internet permet à ce genre d'informations qui sont mises au même niveau que les informations de médias sérieux. Internet permet à ce genre d'informations de pulluler et de, voilà, d'avoir une deuxième vie. Les questions des responsabilités, effectivement, les politiques, les élites ont leurs responsabilités quand le débat public manque de dignité, quand on est dans la com permanente, quand on est même parfois dans le mensonge, quand Laurent Wauquiez dit « je n'ai jamais mis de gilet jaune, qu'est-ce que vous racontez ?» et qu'il est fact-checké en temps réel sur Internet avec des photos où on le voit avec un gilet jaune. Voilà, ça fait beaucoup de mal, la crédibilité des hommes publics. Voilà, alors ça c'est les constats. Et en même temps, c'est aussi, il est vrai, la limite aujourd'hui de ce mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a aucun interlocuteur crédible,
ça a été dit,
sérieux.
Et c'est un vrai problème, oui.
Voilà, qui peut organiser le mouvement et devenir le représentant du dialogue avec les pouvoirs publics. C'est problématique.
Allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
C'est une rose blanche à la main qu'Emmanuel Macron est sorti ce soir de sa voiture à Strasbourg. Il a été la poser devant les bougies installées place Kléber avant de se recueillir en hommage aux victimes de l'attentat de mardi soir. Le chef de l'État s'est ensuite adressé aux forces de l'ordre mobilisées pour retrouver l'auteur de cette attaque. Il les a remerciés pour leur engagement. Aujourd'hui, cet attentat de Strasbourg a fait une quatrième victime. Le procureur de la République a lui souligné la poursuite de l'enquête afin de savoir si l'assaillant, Chérif Chekat, a bénéficié de complicité. Deux nouvelles personnes issues de son entourage sont placés en garde à vue depuis la nuit dernière. L'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes doit se jouer demain samedi un peu partout en France. À Paris, 47 gares SNCF et stations de métro seront fermées à la demande de la préfecture de police dans le secteur des Invalides. Plusieurs musées n'accueilleront pas de public. Ce sera aussi le cas à Bordeaux. À Nancy, le préfet décide d'interdire des manifestations en plusieurs points de la ville. La France va-t-elle rejoindre la Russie en finale de l'Euro féminin de handball? Les Bleus affrontent à 21h en demi les Pays-Bas. Le match se tiendra devant 15 000 personnes rassemblées à l'Accor Hôtel Arena de Paris-Bercy.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a éminemment le problème central, majeur, celui de la violence. Le dispositif policier restera inchangé demain, notamment 8 000 policiers et gendarmes déployés à Paris, et c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, hier soir, après la neutralisation de Chérif Chekat à Strasbourg, qui a tweeté la chose suivante. « Policiers, dit-il, des merci le jeudi, des pavés le samedi ». Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en visite ce matin à Strasbourg, était sur la même longueur d'onde.
« Je ne supporte pas l'idée qu'aujourd'hui on applaudisse nos policiers et que certains demain pensent qu'il est encore utile de les caillasser ». Ce matin, j'ai entendu du soulagement, j'ai entendu du bonheur, j'ai entendu de la fierté pour nos forces de police, pour celles et ceux qui, inlassablement, pendant 48 heures, ont mené l'enquête, ont mené la traque, et qui continuent, parce qu'effectivement, l'enquête, la traque continue. Et je voudrais vous dire que ça n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit.
Hamdam Mostafavi, c'est un paradoxe français.
Oui, c'est un paradoxe français qui consiste à encenser la police et ensuite, le lendemain, à l'affronter. Bon, ça nous rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de mobilisations. Ça fait quand même 3-4 ans presque maintenant qu'on vit avec une mobilisation policière importante. On a l'habitude de voir l'armée défiler dans la rue. Là, c'est assez différent avec le contexte des Gilets jaunes, mais tout ça nous rappelle en fait qu'on avait pensé que la France avait un peu été épargnée par une sorte de vague populiste qu'on évoquait tout à l'heure avec le Brexit, avec ce qui s'est passé en Italie. Et finalement, cette défiance vis-à-vis de la police, des institutions, du président, des journalistes, des médias, de tout ce qui représente l'autorité, on pensait que ça n'allait pas se produire sous cette forme-là en France, et c'est un peu ce qui est en train de se produire.
Serge Portelier, au vu de ce qui s'est produit les deux derniers samedis essentiellement, est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement interdire ? C'est une question d'ordre public, je pose, hein, les manifestations.
Écoutez,
après les événements de Strasbourg.
Hein. On vit dans une démocratie quand même. Dans une démocratie, il y a un certain nombre de principes de base. On est en train de fêter le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Enfin, je sais que ça fait très has-been de parler des droits de l'homme aujourd'hui, mais bon, je pense que si on est quelques-uns, autant s'y mettre. Hein. Ça rentrera peut-être. Donc, peut-être qu'il faut rappeler que le droit de manifester, le droit de penser, le droit de s'exprimer, le droit d'être informé, le droit d'informer, tout ça fait partie de notre vie. Enfin, c'est pas simplement du droit, c'est simplement notre façon de vivre. Voilà. Donc on ne peut pas interdire une manifestation, sauf quand il y a des risques absolument évidents, certains, prouvés, que cette manifestation va dégénérer. Donc on ne peut pas, évidemment, interdire une manifestation des Gilets jaunes. Et en plus, enfin, comment voulez-vous que les Gilets jaunes s'arrêtent ? Enfin, faut être un peu sérieux. Ils ont obtenu en un mois ce que l'opposition parlementaire, les syndicats, les associations, enfin tout ce que vous voulez, n'avaient pas obtenu en 18 mois.
10 milliards d'euros.
Oui, voilà.
L'équivalent de 10 milliards d'euros, voilà.
Mais enfin, faisons juste un petit retour en arrière.
Donc vous voulez dire que c'est une incitation à poursuivre un mouvement pour obtenir plus, c'est ça ?
Écoutez, moi je demande pas aux Gilets jaunes de descendre dans la rue, c'est pas la question. Mais je me mets à leur place. Enfin, ils ont obtenu ce que personne n'a pu obtenir, par les moyens ordinaires de la démocratie. Alors, leur dire maintenant, ça y est, on vous a écouté, on vous donne tout, et puis vous rentrez chez vous, c'est un peu naïf.
Alexis Poulain, on n'aurait pas pu imaginer non plus l'inverse, c'est-à-dire de ne rien donner, c'était pire finalement, non ?
Bah, évidemment, ne rien donner. Enfin, le discours de lundi.
Mais c'est vrai ce que dit Serge Portelli.
Mais c'est tout à fait vrai. Mais il faut voir le désarroi dans lequel se trouve le pouvoir aujourd'hui et les relais du pouvoir. Le discours de lundi, c'était sauver les meubles. Emmanuel Macron fait appel à tous ses amis qui ont financé la campagne en disant donnez, faites des cadeaux parce que là, c'est la limite qu'on ne pourra plus atteindre. C'est vraiment alerte rouge à tous les étages. Et c'est clair, ce discours-là, c'est un discours de peur. Vraiment, là, la peur a changé de camp. C'est ce qu'on entend souvent chez les Gilets jaunes. Ils se rendent bien compte de leur force. La multitude, c'est une force. Et ce mouvement, même s'il s'arrête, ce qu'il y a d'aspiration derrière, finalement, de changer la démocratie, de changer le système, va pas s'arrêter avec le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça qu'il faut faire attention. La faillite des élites, elle est écrite, elle est vue, elle est là. Et il va falloir vraiment faire un mea culpa et un travail sur soi par rapport aux élites pour voir comment organiser après tout ça. Et pas seulement en France, parce que c'est qu'un début, la France.
Étienne Girard, de votre point de vue, est-ce que, selon vous, le gouvernement a un petit peu repris du poil de la bête d'un point de vue de politique, hein ?
Oui, quand même, parce que samedi, le dispositif policier était, samedi dernier, le dispositif policier était plus en phase avec les besoins et a plus facilement empêché la manifestation parisienne de déborder, parce que le discours d'Emmanuel Macron n'a absolument pas convaincu les Gilets jaunes, mais il a convaincu une partie des Français qui soutenaient jusqu'à présent mollement les Gilets jaunes sur le thème « bon, maintenant il a fait un pas vers les Gilets jaunes, donc ce serait de bon ton de ne pas manifester samedi ». Donc objectivement, le pouvoir est dans une meilleure posture que vendredi soir à la même heure. Mais est-ce que le pouvoir est tiré d'affaire ? Non, je pense que le pouvoir, Emmanuel Macron, a gagné du temps. Là, le climat n'est plus très clairement une manifestation d'ampleur demain. Mais les manifestations d'ampleur, elles reprendront sans doute à la rentrée, par exemple. On va avoir jusqu'à la rentrée de janvier un noyau de gilets jaunes extrêmement motivés, parce qu'ils ont déjà obtenu un peu, qui espèrent obtenir beaucoup, qui vont rester sur les ronds-points. Et le moment de vérité, ce sera début janvier.
Allez, oui, c'est ce que ce monsieur disait hein, sur son rond-point jusqu'au printemps. Voilà. Allez, nous allons marquer une petite pause pour la météo, pour le rappel de l'info, le journal. Et on se retrouve tout de suite après. Nous évoquerons justement la tentation de certaines formations ou associations à se joindre à ce mouvement. À tout à l'heure.
Bonjour, c'est Marc Fauvel. Je vous retrouve chaque matin de 7h à 9h30 sur France Info avec tous vos rendez-vous préférés. L'économie, Fanny Guinochet.
Les indemnités chômage des Français vont être réformées cette année.
Le vrai du faux, Antoine Krempf.
Au-delà du débat légitime sur cette loi, elle est l'objet d'énormément de désinformation et de manipulation.
L'infomédia, Céline Baydarcourt.
Les soirées télé démarrent de plus en plus tard et les chaînes ne se font même pas taper sur les doigts.
Et puis l'étoile du jour, Marie Coleman.
Scarface, La Chasse, Serpico, Le Parrain, vous l'avez reconnu ?
Ravi d'être avec vous et à demain.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest ce soir et la nuit prochaine, les plus associées seront soutenues. Demain, elles vont gagner progressivement toute la moitié ouest du pays. Et attention, des pluies verglaçantes ou de la neige sont attendues temporairement en matinée entre la Normandie et le Poitou. En attendant, vous profiterez encore d'une journée assez bien ensoleillée en allant vers les régions de l'est. Après dissipation, bien sûr, des brouillards givrants présents au lever du jour. Côté température, les gelées matinales seront une nouvelle fois fréquentes, parfois fortes et en particulier dans le nord-est, comptez moins 7 degrés à Reims, Nancy, Nevers et Dijon, moins 5 à Lille, moins 4 à Lyon mais aussi à Orléans. Prévoyez moins 3 degrés dans la capitale, moins 2 à Tours, moins 1 à Marseille. Les températures resteront froides l'après-midi dans le nord et le nord-est avec des maximales comprises entre moins 1 et 3 degrés. Prévoyez un net redoux en Bretagne et dans le sud-ouest avec des valeurs comprises entre 11 et 15 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Romain Desec.
Bonsoir Jean-François. Cela fait une heure maintenant qu'Emmanuel Macron est dans les allées du marché de Noël de Strasbourg. Le président discute avec des commerçants, des visiteurs, trois jours après l'attaque terroriste qui a frappé la ville. Auparavant, le chef de l'État a longuement salué les forces de l'ordre rassemblées en rang, place Kléber, où le président s'est recueilli. Du côté de l'enquête, le procureur de la République de Paris annonce la garde à vue de deux proches de Chérif Chekat qui a été abattu hier par la police. Il a également annoncé la mort d'une quatrième victime. 11 personnes sont blessées. Dans ce contexte, et alors que le plan Vigipirate est ramené au risque attentat, quelle sera l'ampleur de la mobilisation des gilets jaunes demain? Certains appellent à un acte 5. Pour de nombreux gilets jaunes, ce ne sera pas forcément à Paris où le dispositif sécuritaire sera identique à celui de samedi dernier. Valérie, Michel, Stéphanie et Jérôme comptent rester sur leur rond-point tout près de Dreux.
Non, moi je manifeste pas sur Paris. Non. Ils sont trop sauvages, les CRS.
On a des retours, on a des gens qui nous disent nous on manifeste pacifiquement et puis on se fait gazer. On a une personne qui a dit moi je suis sorti d'une bouche de métro, j'avais rien fait, j'avais simplement le gilet, je me suis fait gazer quoi.
Donc vous allez faire quoi? Vous allez venir ici? Vous allez manifester?
Je reste ici avec ceux-là qui restent ici. On ne bougera pas d'ici parce que ça serait un peu cédé effectivement face à ce terrorisme, et alors que non, on est là depuis le début, on a rien lâché et on continuera. On n'a pas mis tout ça en pied d'œuvre pour lâcher parce qu'un petit terroriste a voulu faire peur à tout le monde.
Non, faut pas arrêter, je pense pas. Non, faut que lui, il plie, le gouvernement plie. Si j'avais été là-bas, peut-être j'aurais pris une balle. Peut-être que je vais en prendre une tout à l'heure là au rond-point parce qu'il y a un abruti qui va arriver. Mais on fait plus rien là, on reste chez soi. Moi je reste dans ma petite maison à la campagne, je mets ma petite cheminée puis j'attends que ça se passe.
C'est dans la foule.
Ah non. Si on bouge pas, il n'y aura rien de fait.
Un propos de Gilets jaunes recueilli par Mathieu Mondoloni pour France Info. Édouard Philippe a précisé les contours de la prime exceptionnelle versée par certaines entreprises en cette fin d'année. Elle concernera uniquement les salariés qui touchent moins de 3600 euros net par mois. Les fonctionnaires en sont exclus. Après Bruno Le Maire, c'est le chef de l'État lui-même qui hausse le ton vis-à-vis de Ford. Le groupe américain va fermer l'usine de Blanquefort après le rejet de l'offre de reprise proposée par un groupe franco-belge. Une décision hostile et inacceptable, juge Emmanuel Macron. 850 salariés sont concernés. L'Euro de hand féminin et la demi-finale des Françaises. Ce soir, elles affrontent les Néerlandaises dans une demi-heure. L'équipe vainqueur affrontera la Russie en finale. Et puis la région Normandie va sans doute se réveiller sous la neige demain matin. Météo France place la région en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de 9h. La Sarthe, la Mayenne et l'Eure-et-Loire sont également concernées. Tout de suite, vous retrouvez la suite des informés avec Jean-François Killy.
20h, 21h, les informés, Jean-François Killy.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Amdam Mostafavi, rédactrice en chef à Courrier International, avec Serge Portelli, magistrat honoraire, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du site Le Monde Moderne. C'est donc sur Facebook, vous le savez, que les gilets jaunes sonnent le rassemblement. Les appels, les discussions réunissent plusieurs milliers de participants et désormais des organisations comme l'Espace des luttes de la France insoumise, le Parti de gauche, le Syndicat solidaire ou l'association Attaque appellent à se joindre au cortège. Philippe Martinez de la CGT a même évoqué des convergences avec les gilets jaunes. Certaines personnalités vont même au contact, à l'image de François Ruffin, tendez bien l'oreille, le député de la France Insoumise de la Somme, qui était sur un rond-point à Montpellier.
Je suis là pour être une oreille, et ensuite je serai une voix à Paris, mais là je suis d'abord là pour être une oreille pour vous écouter.
Amdam Mostafavi, je suis là pour être une oreille, et ensuite je serai une voix à Paris, a donc dit François Ruffin, c'est sa place.
Oui, il y a un paradoxe avec tous les. Il y a eu une nouvelle Assemblée nationale avec beaucoup de nouveaux députés qui étaient issus, comme François Ruffin, de la société civile, qui n'étaient pas des politiques de formation, et qui se retrouvent là eux aussi à devoir prouver qu'ils sont connectés avec la population et qui sont pas des députés comme on en voyait avant, des députés de carrière qui depuis 40 ans. Et je sais pas si dans cette mise en scène politique, finalement, ils trouvent une crédibilité. C'est pas complètement certain que ça suffise, en fait, pour convaincre justement des gilets jaunes que des politiques sont encore pertinents.
Étienne Girard, dans le même ordre d'idée, vous avez la sensation que les politiques, quelle que soit leur obédience, rament depuis le début de cette opération?
Absolument, il y en a qui rament plus que d'autres. mais même François Ruffin, moi j'ai été frappé, quand je parle de François Ruffin au Gilet jaune, il n'y a pas d'adoration pour François Ruffin. Alors il y a une indulgence, mais il y a une méfiance, parce que malgré tout, même si François Ruffin il a prouvé dans sa vie qu'il était proche des aspirations de ces gens-là, bah, c'est un représentant, c'est un gouvernant, c'est un député, et donc les Gilets jaunes c'est un mouvement du bas contre le haut, et absolument tous les gens, sans aucune exception, qui font partie du haut, et les syndicats sont considérés comme faisant partie du haut, corps intermédiaire, ouais, sont rejetés. Et donc ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour Le Pen, ça vaut pour Mélenchon, ça vaut évidemment pour les députés de la majorité qui essayent de faire un travail de cohésion en allant voir les gens sur les ronds-points. Oui. Ils sont mal accueillis.
Alexis Poulain, ça vaut également, éminemment, pour le chef de l'État. On en a vu fuser, on entend toujours des Macron démission, tous azimuts. Est-ce qu'il cristallise une forme de colère, le président de la République?
Complètement. Enfin, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions de la Ve République. Et là, il est devenu un bouc émissaire. C'est totalement déraisonnable. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est la raison de tous les maux des Français. Or, il arrive à la fin, finalement, d'un système. Il est là pour essayer de le réformer. C'était l'idée de son programme. C'était en marche, justement, de faire parler les gens, des gens qui n'avaient jamais fait de politique, qui sont venus pour essayer de changer les choses. Et le voilà, essayant de faire les réformes. Mais comme ça ne va pas assez vite, comme les réformes ne sont pas forcément les bonnes non plus, parce que commencer par faire des cadeaux aux plus riches en disant que ça aidera à l'économie et vous verrez les résultats dans 5 ans, c'est pas forcément ça que les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre
entendre aussi que eux veulent des gains immédiats. Ça n'a pas été le cas. Et on voit bien que les théories du ruissellement, ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien ça, ce mouvement-là.
Vous pensez que c'est cette façon de gouverner qui a forcément débouché sur ce mouvement spontané, si je puis dire?
Il a voulu réincarner une fonction présidentielle royaliste, jupitérienne, comme lui-même l'a dit. Et avec ça vient, bien sûr, l'envie de régicide. C'est quelque chose de complètement immature, enfin, la façon dont on fait démocratie chez nous. Le suffrage universel, la personnalisation comme ça des politiques, c'est d'abord une personne avant des idées. La mise en scène aussi du roi, comme on voit là, c'est incroyable. Ça fonctionne plus, il faut passer à autre chose, on est au XXIe siècle.
Serge Portelli, vous pensez que nos institutions, la conception même de la Ve République est un petit peu mise à mal au travers du mouvement des Gilets jaunes, ou pas ?
Écoutez, la Ve République a traversé tellement de crises de tous ordres, politiques, presque dire même militaires au début quand même.
Au départ, oui, c'est vrai.
Elle est née avec l'armée, donc bon, je pense qu'elle survivra à ça. Mais c'est vrai que la critique est terrible aujourd'hui contre la quasi-totalité des institutions, c'est ce que vous disiez. Et alors moi, j'allais dire la critique la plus violente, la plus féroce, la plus implacable que j'ai jamais entendue contre les 18 derniers mois, c'est Emmanuel Macron qui l'a faite dans son intervention. Relisez ce qu'il dit. C'est terrible. Alors, on a dit que c'était un mea culpa. Oui, effectivement, c'est un mea culpa. Mais je veux dire, c'est les critiques qu'il s'adresse à lui-même, c'est l'origine. C'est une explication enfin, Emmanuel Macron est quelqu'un de très intelligent et qui a des analyses politiques très fines.
Vous pensez de ce qui relève du comportement du président de la République?
Pas simplement du comportement. Relisez, oui. Réécoutez vraiment ce qu'il a dit. À la fin, il a dit, tout à fait, à la fin de son mea culpa, il a dit, bon, j'ai eu des mots qui n'étaient pas appropriés, j'étais blessant, voilà. Mais il y a tout le reste qui est avant, ça dure à peu près 3 minutes, où il dit, bah, j'ai fait une mauvaise politique. Je ne me suis pas intéressé aux petites gens, il y a des gens qui n'arrivent pas à leur fin de mois. Enfin, j'ai jamais entendu Emmanuel Macron dire ça. Jamais. Quand il a fait campagne, c'était absolument pas là-dessus. Et pourtant, il avait quand même écrit un livre qui s'appelait Révolution. Enfin bon, maintenant, il l'a, mais c'est pas tout à fait celle qu'il désirait. Donc, oui, les hommes politiques, là, quand on voit François Ruffin, c'est tragique, quoi. C'est vraiment tragique, c'est l'image.
Vous pensez que ce mouvement est en train de nous faire un petit peu zapper le temps du mouvement, hein, tout ça va peut-être rentrer dans l'ordre de ce qui est de l'ordre de la représentation nationale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fonctionnement démocratique. On a l'impression que pchit, tout ça est en train d'être contourné.
Non, moi, je dirais pas pchit, parce que j'ai un œil comme vous rivé sur les sondages. Et moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'évolution des sondages pour les européennes. Et je ne sais pas si vous avez vu. C'est quand même là-dessus qu'il faudrait réfléchir le plus rapidement possible. Qui profite de tout ça ? Marine Le Pen, qui monte régulièrement depuis quelques semaines dans les sondages, et les autres sont très loin. LRM est vraiment complètement largué, et les autres, alors, n'en parlons pas. Enfin, je parle même pas du Parti Socialiste, du Mouvement d'Hamon, qui ont même pas les 5%, qui arriveront pas à être remboursés si jamais les élections avaient lieu demain. Donc, mais... Et je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, quand on fait les comptes provisoires, c'est un mouvement qui profite à l'extrême droite.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
À quoi va ressembler l'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes demain un peu partout en France, à Paris, dans le secteur des Invalides. 47 gares SNCF et stations de métro seront fermées au public. Plusieurs musées, dont celui d'art moderne, le Petit Palais, n'ouvriront pas. Les lycées de la capitale, habituellement ouverts le samedi, n'accueilleront pas d'élèves. Emmanuel Macron en déplacement ce soir à Strasbourg pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de mardi soir, pour saluer aussi le travail des forces de l'ordre. L'attaque commise par le terroriste shérif Chekat a fait aujourd'hui une quatrième victime. Jawad Ben Daoud sera fixé sur son sort le 29 mars prochain. Il était jugé devant la cour d'appel de Paris depuis le 21 novembre dernier pour avoir logé deux des djihadistes du commando des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et Paris. Une peine de 5 ans de prison a été requise à son encontre. Attention, si vous habitez un quart nord-ouest de la France, 8 départements sont classés en vigilance orange à la neige et au verglas. Cela concerne entre autres la Manche, la Seine-Maritime et l'Eure-et-Loire. C'est un record mondial pour une œuvre originale originale écrite en français. Le premier exemplaire de Du côté de chez Swann de Marcel Proust s'est vendu aujourd'hui aux enchères à Paris à plus d'1 500 000 euros. Cette pièce rare provenait de la collection de Pierre Berger.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un peu plus cher qu'en édition de poche. Merci à vous, Thomas. Alors, le gouvernement commence à préciser les mesures annoncées par le chef de l'État en début de semaine, notamment la prime exceptionnelle défiscalisée, réservée aux salariés touchant jusqu'à 3600 euros mensuels nets. Le Premier ministre, Édouard Philippe, en visite dans le Val-d'Oise ce matin, en a dessiné les contours.
L'objectif, c'était de voir avec ces chefs d'entreprise quelles pouvaient être les conditions de fonctionnement de cette prime exceptionnelle défiscalisée. Ce sera une prime qui pourra aller jusqu'à un montant de 1000 euros, qui sera totalement défiscalisée, exonérée de toute charge sociale. C'est-à-dire que ni l'impôt sur le revenu pour le salarié, ni le paiement de la CSG ou de la CRDS ou d'aucune cotisation sociale ne sera affecté au versement de cette prime. En pratique, ça veut dire que si un chef d'entreprise décide de verser 350 euros de prime exceptionnelle défiscalisée à ses salariés, eh bien ces salariés toucheront très exactement 350 euros. Il n'y aura absolument aucun prélèvement effectué directement ou indirectement sur cette prime.
Amdam Mostafavi, vous avez la sensation que ces annonces font mouche?
C'est le Père Noël avant Noël et moi je trouve ça quand même relativement, enfin c'est très bien qu'il y ait évidemment plus d'argent, mais c'est quand il fait ça, en fait il remet en cause tout le système et justifie en fait complètement le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il dit en gros
il suffit
de demander de l'argent pour qu'on en donne, et tout le principe même de la redistribution, de pourquoi il y a des taxes, de faire tout ce travail d'expliquer de comment ça fonctionne, et c'est complètement mis de côté, c'est même pas la peine d'essayer. Donc à partir du moment où on fait ça, je sais pas comment derrière, il reste quand même, on est qu'à 18 mois de présidence, comment derrière on réforme, comment on avance, malheureusement pour moi le gouvernement perd toute crédibilité quand il décide de juste d'y se faire des cadeaux en mode Père Noël.
Alexis Poulain, c'est le Père Noël, dit à l'instant Amdam Mostafavi, ça concerne les entreprises volontaires, hein. il faut quand même le préciser. Hein.
C'est loin d'être le Père Noël, c'est le Père Fouettard. En fait Emmanuel Macron, en bon start-upper, il fait un pivot, ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire qu'il continue sa politique mais il change un peu le produit. Quelle est sa politique? C'est de réduire l'État. C'est faire en sorte que le marché de la dette, le marché privé, soit un peu partout, dans la santé, dans l'éducation, dans les soins, dans ce que sont les services de l'État, parce que l'État coûte cher. Donc là, on est exactement dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on ne va pas taxer davantage, mais les Français ne veulent pas davantage de taxes. Il faudrait taxer de manière juste. Cette justice fiscale, elle n'est pas là, elle n'est toujours pas là. Et puis l'idée de dire, attention, hein, c'est une prime, mais exceptionnelle, n'attendez pas à ce que ce soit tous les ans, maintenant vous rentrez vite à la niche et puis on en parlera plus tard. Non, je crois que là, il y a aussi une question de la captation de la valeur du travail. Le travail doit payer. Et à côté d'Edouard Philippe, il y avait Muriel Pénicaud qui disait la veille de l'allocution d'Emmanuel Macron que non, augmenter le SMIC allait détruire des emplois. Eh bien non, il faut augmenter le SMIC. Évidemment, il faut que le travail paye. Il faut que les gens soient payés et puissent vivre dignement de leur travail et arrêter cette captation pour le profit du travail.
Étienne Girard, il y a eu un feuilleton effectivement autour du SMIC. Au départ, c'était pas touche au SMIC. Ensuite, c'était 100 euros inclus les 1,8% de hausse, si je puis dire, mécanique. Ensuite, c'était exclu. On a l'impression que ça navigue un petit peu à vue, finalement. Et d'ailleurs, les services concernés nous confient, hors micro, bien évidemment, qu'ils essaient de comprendre ce qui se produit. Et c'est pour mercredi en Conseil des ministres.
Bien sûr. Et ça doit être voté définitivement d'ici au 31 décembre. Donc, le temps presse. Cette question du véhicule législatif, à la limite, elle est secondaire. L'intendance suivra.
Ça, c'est possible.
Comme disait De Gaulle. Tout est possible, évidemment. Il suffit d'arrêter une décision et ensuite, à toute vitesse, on réécrira. Après, il faut le réécrire de façon à ne pas être censuré par Conseil constitutionnel, mais on réécrira les textes. Bon, mais moi, il me semble que le principal problème, c'est qu'il y a une incompréhension de ce que demandent les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, leur demande, c'est bien sûr pouvoir finir les fins de mois, mais c'est aussi de la justice et de la justice sociale et fiscale. À la fois cette question du SMIC qui s'arrête à 1,2 SMIC et cette question de la prime exceptionnelle sur volonté de l'employeur, ça répond pas à la question. Parce que on va créer un fossé entre les entreprises qui pourront, les entreprises prospères, ouais, qui pourront verser cette somme à leurs salariés, et les entreprises pas du tout prospères qui pourront pas verser ça, cette somme-là. Et de la même façon, on crée un fossé entre les gens jusqu'à 1,2 SMIC qui auront cette revalorisation et les autres.
Donc vous déplacez le mécontentement sur ceux ne bénéficieront pas de la dite mesure.
Donc on crée une rivalité entre les classes que Emmanuel Macron a appelées les classes laborieuses et les gilets jaunes. C'est une multitude de gens. C'est pas tous des gens au SMIC qui sont dans une entreprise dont l'employeur peut leur verser une prime exceptionnelle.
Alors Serge Portelli, vous évoquiez à l'instant l'allocution du président de la République, celle de lundi dernier. Il y a aussi ce mot qui a été glissé dans le discours du président, celui de l'immigration. Et c'est notre confrère L'Opinion qui a titré ce matin les dessous d'un hiatus entre Élysée et Matignon sur la question, puisque il faut savoir qu'il y a ce débat national qui démarre là pour tous ceux qui manifestent, hein, c'est dans leur direction. Est-ce qu'il faut évoquer ces questions-là? Est-ce qu'il faut les mettre sur la table? Et ça tiraille un petit peu pour savoir si ça fait partie du débat citoyenneté ou si ça doit être traité à part. Est-ce que vous pensez que ces débats-là sont d'actualité aujourd'hui?
La question de l'immigration est toujours d'actualité, depuis des décennies. Vous avez bien vu tout le bruit qui a été fait autour de ce pacte
de Marrakech,
de l'ONU, qu'évidemment dont personne n'a lu les 41 pages, et qui donne lieu encore à des fantasmes complètement, mais alors un délire assez rare quand même, hein. On vend la France à l'ONU, c'est tellement délirant qu'on finit par oublier ces fantasmes, mais qui sont de l'ordre de l'asile psychiatrique. Enfin, c'est un pacte qui n'a strictement aucune force contraignante pour n'importe quel État. Donc, voilà. Par contre, ce pacte de Marrakech est très intéressant, parce que c'est une vraie réflexion mondiale qui est menée sur tous les aspects de l'immigration, et qui d'ailleurs souligne que cette politique de l'immigration est de la responsabilité des États. Enfin, c'est pas du tout ouvrons la porte, le grand remplacement et tout ce qu'on entend. Voilà. Donc, si aujourd'hui on lance le débat sur l'immigration, ce qui n'était pas du tout prévu au départ dans les programmes du président de la République, non. J'ai jamais vu ça. Voilà. Et là, pourquoi va-t-on dans cette direction? Pourquoi est-ce que, alors que la campagne électorale pour les européennes démarre, a déjà démarré, pourquoi est-ce qu'on rentre dans un débat qui est extrêmement chaud et où on pourrait arriver à des dérives qu'on a connues à l'époque de Nicolas Sarkozy ou d'autres, enfin vraiment.
Ça vient de là, il a rencontré Nicolas Sarkozy.
Mais oui,
je ne cherchais pas d'où vient l'idée, je ne sors pas d'un château.
Voilà. Aller dans ce sens-là.
Et même dans le discours de lundi, il y avait l'idée d'identité nationale qui est revenue.
Il y avait une phrase qui durait à peu près 20 secondes, mais cette phrase-là est la plus catastrophique de toutes ces phrases, parce que on risque d'entraîner LRM et les autres vers un discours, j'allais dire, sarkoziste. Quoi.
Vous partagez ce point de vue rapidement, Amdam Mostafavi. C'est un sujet qui n'a pas lieu d'être dans les discussions qui démarrent, ou pas, hein. C'est une vraie question.
C'est un sujet, c'est une façon, on l'a dit, on l'a vu vite fait tout à l'heure, mais le fait que, en effet, ce mouvement fasse quand même reprofiter à l'extrême droite, c'est une façon de se dire bon, on va occuper le terrain et on va récupérer la question avant qu'elle soit exploitée par d'autres. Mais en fait, ça la met sur le terrain, alors qu'on a parlé jusqu'ici de justice sociale, d'économie et qu'on
de pouvoir d'achat.
Voilà, ouais. Et ça fait un lien indirectement entre ces deux questions, alors que là, il n'y en avait pas.
Allez, 20h50 sur France Info, le dernier appel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le plan Vigipirate est ce soir rétrogradé d'urgence à risque attentat. Les forces de l'ordre restent mobilisées à 11 jours de Noël. Des forces de l'ordre dont Emmanuel Macron a salué l'engagement ce soir. Le chef de l'État se trouve à Strasbourg au lendemain de la mort de l'auteur de l'attentat perpétré mardi soir. Le président de la République s'est recueilli place Kléber. Il a rendu hommage aux victimes de cette attaque strasbourgeoise qui a fait ce vendredi une quatrième victime. Avant cela, Emmanuel Macron était à Bruxelles pour un Conseil européen. À l'issue, il a estimé que la France a besoin de calme, d'ordre et de retrouver un un fonctionnement normal. Une prise de position à la veille d'une cinquième journée de mobilisation des Gilets jaunes un peu partout en France. France et Allemagne l'ont annoncé en fin d'après-midi. Les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour réformer la zone euro et créer ensemble un budget commun pour l'UE. Reste maintenant à s'entendre en juin prochain sur les caractéristiques principales de ce fameux budget. La France face aux Pays-Bas ce soir pour une place en finale de l'Euro féminin de handball. La rencontre débute dans une dizaine de minutes maintenant à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Le vainqueur rencontrera la Russie qui s'est qualifiée ce soir après sa victoire face à la Roumanie 28 à 22.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il était la figure du nationalisme corse, ou plutôt d'une revendication autonomiste, identitaire. Edmond Siméon, il s'est éteint à 84 ans à l'hôpital d'Ajaccio. Jusqu'au bout, cette personnalité emblématique, parfois emportée, chaleureuse, aura porté une parole forte et des idées contestées au niveau national, il faut le dire, mais désormais incarnée par son propre fils, Gilles, président élu de la collectivité de Corse. Voici ce court extrait, l'occupation d'une cave viticole, souvenez-vous, à l'air, il y a le 21 août 75, pour dénoncer l'attribution par l'État de terres aux rapatriés d'Algérie. 1500 gardes mobiles donnent l'assaut, deux d'entre eux sont tués. Le militant Edmond Siméon s'explique alors.
On n'a pas pour vocation un quelconque séparatisme ou une atteinte aux institutions ou une dénaturation de notre lutte. Il n'y a pas d'esprit de provocation, il y a simplement la volonté affirmée à travers un problème sectoriel qui compromet 4 à 5 notabilités rapatriées, d'élargir la lutte pour la corsisation des emplois, la défense de l'identité culturelle, la charte de retour des exilés.
Serge Portelli, Edmond Siméon, il a regretté par la suite la mort des deux policiers, il avait été condamné, il a fait de la prison. Curieux de voir ces images, ça nous ramène à un passé lointain. Il y a eu 30 années de plomb qui ont suivi.
Oui, Siméoni est à la fois une grande figure de la Corse. Voilà, il est à l'origine de l'essor à la fois de cette langue, de ce peuple, d'une politique. Donc on lui doit énormément. La Corse lui doit beaucoup. Je pense qu'elle l'honorera de la meilleure façon. Mais en même temps, c'était une personnalité très controversée, y compris en Corse. Et c'est vrai qu'après Aléria, qui était à mon avis une faute majeure, il l'a dit lui-même. La Corse a connu une période noire, il faut dire les choses, où le mouvement nationaliste s'est éparpillé avec des querelles internes, avec vraiment une évolution qu'on aurait peut-être pu éviter. Donc oui, il a déclenché quelque chose de très intéressant pour la Corse, mais en même temps, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de fautes, je ne sais pas aujourd'hui, il est mort à 84 ans, quel regard il portait, parce qu'il était humaniste, enfin il se disait humaniste et il l'était vraiment. C'était un grand lettré, c'était un docteur,
c'est
le docteur Siméoni.
Docteur Siméoni, voilà.
Donc c'est un grand bonhomme, mais complexe.
Hamdam Mostafavi, la Corse ne figure pas encore dans Courrier international au titre de pays que vous étudiez séparément, si je puis dire. Grande figure quand même, il aura marqué son époque malgré tout.
Oui, on s'intéresse quand même à la Corse, parce qu'il y a beaucoup de mouvements indépendantistes en Europe qui observent souvent la Corse, notamment quand on a parlé de la Catalogne ou de l'Écosse, on a beaucoup comparé avec la Corse, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les idées qu'il a portées sont à travers son fils aujourd'hui quand même au pouvoir, au conseil exécutif
largement
en Corse,
élu, il faut le
largement
rappeler.
Élu, on est quand même dans une alliance entre les différentes branches autonomistes en Corse, qui est relativement inédite, et c'est intéressant de voir que justement les thématiques, la langue corse, le territoire, l'écologie, c'était des thématiques qui portaient déjà à cette époque et qui sont encore totalement d'actualité aujourd'hui.
Oui, elles sont d'actualité, elles sont même été portées par des partis dits traditionnels de droite et de gauche. Étienne Girard, il y a toujours cette incompréhension entre Paris et la Corse, et pas seulement au niveau gouvernemental.
Oui, bien sûr, il y a cette tradition de corsitude sur l'île de Beauté qui passe mal dans un pays jacobin. Aujourd'hui, on est dans une, on peut faire le constat qu'il y a une incompréhension qui demeure entre une partie de cette île et le pouvoir central en France, qui est arrivé à son paroxysme quand le président de l'Assemblée de Corse a commencé son premier discours de dirigeant en Corse. Ah, et là, il y a quelque chose qui était difficilement acceptable pour le pouvoir central français. Peut-être que à l'avenir, il faudra faire en sorte de permettre à cette collectivité d'avoir ces dynamiques spécifiques tout en restant sur notre territoire et composante de la République française.
Alexis Poulain, sans faire du droit administratif, hein, il y a certaines collectivités qui ont beaucoup plus de liberté, si je puis dire, qui sont des territoires lointains d'outre-mer. Est-ce qu'il ne faudrait Est-ce qu'il ne faudrait pas décontracter un petit peu ces sujets aujourd'hui?
Mais évidemment, c'est d'ailleurs un des enjeux, encore une fois, à l'échelle européenne de toutes les nations. Alors spécifiquement pour les pays jacobins comme les nôtres, mais le Brexit va poser la question d'Irlande, évidemment, la frontière, on l'a vu, la Catalogne en Espagne, l'Allemagne aussi, qui est en train de changer de couleur politique en fonction des Landes. Et là, en France, évidemment, la Corse, qui est un exemple frappant. Donc c'est la question qui revient, que je posais tout à l'heure sur la table, de l'État-nation. L'État-nation, c'est peut-être quelque chose qui fonctionnait il y a quelques années. Et aujourd'hui, la région, et d'ailleurs l'Europe l'encourage avec les fonds structurels régionaux, est peut-être aussi un avenir de la démocratie, un avenir aussi de faire société.
Allez, ce sera le mot de la fin. Hamdam Mostafavi, qui a-t-il à la une de Courrier International ?
Eh bien, le président Macron, avec une question un peu provocatrice, qui est: Macron est-il fini, puisque la presse étrangère s'interroge, sera-t-il en mesure maintenant de sauver l'Europe,
habillé
de mener toutes ces réformes ?
Gilet jaune. La une de Marianne.
Oui, c'est Macron et les gilets jaunes également, tout ça pour ça, et nos 10 propositions pour sortir définitivement de la crise.
Étienne Girard, Hamdam Mostafavi, Alexis Poulain, tiens, Le Monde Moderne, qu'est-ce qu'on peut lire sur votre site ?
On peut lire un article de David Graber sur l'âge des révolutions et aussi une question sur les assemblées citoyennes.
Et merci également à Serge Portelli d'avoir participé à ces informes. Vous revenez, hein, c'est promis. Hein.
Quand vous voulez, avec un journal peut-être, il faut en avoir un.
Allez, demain soir, Les Informés sur France Info vous seront présentés par mon complice Pierre Neveu. Je vous dis à bonsoir. À bientôt et bonsoir. Voilà.